Liturgie de la parole de ce mercredi 7 mai 2025, mercredi de la troisième semaine de Pâques. Tout homme qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Le Fils le ressuscitera au dernier jour. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle, tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, toi qui es vivant et glorieux pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
Au sixième chapitre du 35e au 40e verset. En ces temps-là, Jésus disait aux foules: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers auditeurs, chers internautes, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. C'est ce qu'on constate dans la première lecture d'aujourd'hui, mercredi de la troisième semaine de Pâques. Actes 8, de 1 jusqu'à 8. Étienne meurt. Et une persécution cruelle, sanglante, commence à Jérusalem. On dirait que c'est la fin de l'Église. L'Église naissante est presque en agonie, en train de disparaître. Et Paul, de son côté, commence à se réveiller, commence à aller prendre les chrétiens dans des maisons, là où ils se cachent, pour les traduire en justice devant le Sanhédrin. On se dit, ce mouvement va mourir bientôt, va disparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est que la persécution a comme conséquence la dispersion des disciples qui étaient à Jérusalem. Ils commencent à aller par-ci par-là, sauf les apôtres. Les apôtres restent à Jérusalem. Jusque-là, c'est le siège de l'Église, Jérusalem. Mais plus tard, ils vont eux aussi aller à travers le monde. Et Pierre finira à Rome, là où il va mourir. Paul aussi finira à Rome, là où il va connaître aussi le martyre. Mais dans l'entretemps, à Jérusalem, on ne peut plus annoncer la bonne nouvelle. Les disciples, dont le diacre Philippe, se dispersent. Et dans leur fuite, ils commencent à annoncer la parole de Dieu ailleurs. Voilà pourquoi on peut résumer cet évangile avec cet adage très, très actuel, proche de nos réalités. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une autre. Une porte vient de se fermer. À Jérusalem, c'est impossible de prêcher la bonne nouvelle. Parce qu'il y a la persécution cruelle, sanglante. Mais cela permet aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Et finalement, c'est l'Église qui gagne. Parce que l'Église se répand. L'Église n'est plus seulement l'Église de Jérusalem, mais l'Église de Samarie, de la Judée, l'Église qui va continuer jusqu'à Antioche depuis des Syries. Ceux qui étaient persécutés échappaient à la persécution et sont allés à Antioche de Syrie pour implanter l'Église. Quand Dieu ferme une porte, une autre va s'ouvrir. C'est ça, ce qui résume la première lecture d'aujourd'hui. Vous avez l'impression que ça ne marche pas. parce que justement, ce que vous vouliez faire n'a pas abouti, ou bien ce que vous faisiez n'a pas abouti. Une porte s'est fermée, mais Dieu va ouvrir une autre porte. Ayez seulement l'espérance. N'oubliez pas que nous sommes en pleine année jubilaire de l'espérance. Mais la première lecture nous montre aussi que parfois c'est à travers la souffrance que les chrétiens écrivent leur histoire. Comme qui dirait, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il y a aussi des lignes courbes de la persécution, la mort d'Étienne, la persécution de beaucoup de chrétiens. Ça, ce sont des lignes courbes. Mais Dieu se sert de ces lignes courbes pour écrire droit. Parce que, nous le disions tout à l'heure, c'est à cause de cette persécution que l'Église va grandir. L'Église grandit à travers la souffrance. Parce que l'Église, c'est l'Église qui adore le Messie crucifié, qui nous a sauvés à travers la souffrance. Et l'Église aussi grandit à travers la souffrance. La persécution fait que l'Église et l'Église grandissent. L'Église s'implante en Samarie, Antioche de Syrie, par-ci, par-là, et plus tard jusqu'à Rome, à cause de la persécution. S'il n'y avait pas cette persécution, peut-être que l'Église se limiterait à Jérusalem et aux environs. Mais s'il y a eu vraiment la dispersion des disciples qui sont allés implanter l'Église par-ci, par-là, c'est parce qu'il y avait la persécution. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Les lignes courbes, c'est votre maladie. Les lignes courbes, c'est le fait que vous êtes en prison. Mais Dieu écrit droit avec les lignes courbes de nos vies. Votre maladie, le fait que vous êtes en prison, eh bien, c'est peut-être des passages obligés pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. L'Église passe par des persécutions pour grandir. Vous aussi, à travers votre maladie, vous êtes appelé à grandir dans la foi, à découvrir Dieu davantage. À travers le fait que vous êtes en prison, vous êtes prisonnier, et vous nous suivez en ce moment. Alors c'est peut-être Dieu et qui voudrait, à travers cela, à travers cette situation difficile, il voudrait vous aider à grandir dans la foi. Parce que l'Église grandit à travers la persécution, chacun de nous va grandir et recevra des grâces à travers des situations difficiles. Chers auditeurs, chers internautes, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ revient sur les discours sur le pain de vie. Il est le pain de la vie. Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Durant ce temps pascal, nous allons souvent écouter dans l'Évangile les allusions au pain de la vie, c'est-à-dire à l'Eucharistie. Parce que nous sommes en pleine fête de Pâques, c'est le temps de Pâques encore. Ce n'est pas encore fini. Jusqu'à la Pentecôte, c'est le temps pascal. Et le temps pascal nous rappelle le sacrement de l'Eucharistie et de la réconciliation. Ce sont des sacrements institués par Jésus-Christ dans le contexte pascal. Avant de mourir, le jeudi saint, la veille de sa passion et de sa mort, il a institué l'Eucharistie, ressuscité le huitième jour. Après la résurrection, il institue le sacrement des pénitences et réconciliation, la confession, en Jean 20. Ce sont donc là les deux sacrements de ce temps de Pâques. N'oublions pas ce que disent les commandements de l'Église. Il faut communier durant le temps pascal, et puis il faut confesser ses péchés au moins une fois l'an. Du moins pour ceux qui ne peuvent pas, pour ceux qui sont vraiment en péché, les prêtres n'arrivent pas là où ils sont. Les prêtres arrivent peut-être à 20 km, 30 km, jamais là où ils sont. Pendant le temps des Pâques, ils doivent tout faire pour communier et puis pour évidemment confesser. Voilà pourquoi, selon certains, Pâques, le mot Pâques a S à la fin, parce que ça nous rappelle les exigences pascales. Quelles sont les exigences pascales? C'est la communion et la confession. Certains disaient à l'époque, j'ai déjà fait mes Pâques. J'ai fait mes Pâques, c'est-à-dire j'ai communié et je suis parti à la confession. Voilà pourquoi le mot Pâques aura S à la fin. Ça nous rappelle que la Pâque, la fête des Pâques se célèbre en respectant les deux commandements. Les commandements de l'Église, c'est-à-dire communier et puis confesser ce péché au moins une fois l'an. Je fais mes Pâques, c'est-à-dire j'ai communié au corps du Christ et puis j'ai été à la confession. Est-ce que vous avez été à la confession? Est-ce que durant ces temps pascal, vous valorisez l'Eucharistie dans votre vie? Autant de questions qu'on peut se poser. Mais quand Jésus parle du pain de la vie, beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne comprennent pas ce que cela veut dire. Ils ont l'impression que ce n'est pas tout aussi important, l'Eucharistie, Jésus comme pain de la vie. Ils ont l'impression que ce n'est pas tout aussi important, mais le Seigneur va nous le rappeler, toujours dans l'évangile des Jean. À un certain moment, il y en a qui commencent à disparaître. Jésus dira à Pierre, vous aussi vous voulez partir, Pierre dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est que l'Eucharistie est incontournable dans notre vie. Et chacun de nous doit se poser la question de savoir, est-ce que je considère Jésus comme étant le pain de la vie? C'est-à-dire, celui qui donne sens à ma vie. Celui qui donne sens à ma vie, c'est Jésus. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas autre chose, mais c'est Jésus qui donne sens à ma vie. Spécialement dans des moments difficiles. Vous êtes malade, vous êtes en prison, vous traversez des moments difficiles. Qui peut donner sens à votre vie, à votre souffrance, à votre douleur, à votre misère? Il n'y a que Jésus. Jésus donne sens. Le sens qu'il donne justement, c'est par rapport à sa passion. Jésus est passé par la croix pour nous sauver. Et donc nous aussi, le sens que nous devons donner à notre vie, surtout quand nous sommes éprouvés durant des moments difficiles, c'est justement une opportunité pour être unis à la souffrance du Christ. Par nos souffrances, nous sommes unis à la souffrance du Christ pour être victorieux avec le Christ. C'est ça le sens que vous devez donner à votre situation qui est difficile, à ce moment qui est peut-être tragique dans votre vie avec tant de problèmes. Eh bien, le Seigneur vous invite à travers tout cela à vous associer à sa souffrance sur la croix pour qu'avec lui vous soyez victorieux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
femme du prophète Zacharie Élisabeth. Elle portait Jean-Baptiste, celui qui devait baliser le chemin pour Yeshua.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni, dit Élisabeth.
Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, répondit Marie. Et Joseph, la sachant enceinte, projetait de la répudier secrètement. Et l'ange lui apparut, lui expliqua le vénement, l'avènement du Christ, le Sauveur.
Comme Maria, soyez comme Maria. Comme Maria, mes enfants, pensez comme Marie. Comme Maria, mes enfants, soyez comme Maria. Comme Maria, obéissez comme Marie.
Moi aussi, comme Marie, après avoir écouté la parole de Dieu, qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur.